Hébreux chapitre 3 en entier et les trois premiers versets du chapitre 4. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle et celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme fils. Comme un fils, pardon, sur sa maison. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères m'ont provoqué en me mettant à l'épreuve et ont vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération et j'ai dit, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères. Que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement, jusqu'à la fin, notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écouté ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos.
En tant que pasteur, depuis à peu près une trentaine d'années maintenant, je regarde les gens qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Et je vois deux choses qui se passent à ces personnes. Il y en a qui commencent dans la foi, dans la confiance en Christ, qui exultent dans sa promesse d'un salut éternel et qui grandissent de plus en plus dans cette confiance. Qui retiennent cette confiance jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui, ayant commencé, quelque part en cours de chemin, on les constate de plus en plus déçus avec Dieu, déçus, désappointés avec la vie chrétienne. Et non seulement cela, certains vont jusqu'à être frustrés avec Dieu et l'Évangile et la vie chrétienne. Et même fâchés. Et certains s'apostasient complètement, c'est-à-dire ils quittent la foi sur laquelle ils avaient embarqué au début. Dans la pensée de ces derniers, que ce soit subtilement quelqu'un qui est quand même dans l'Église, mais franchement, leur attitude, il y a une note mineure, une note mauvaise dans la mélodie de leur vie chrétienne qui cause problème. Et cette note sonne un peu comme ceci. Pourquoi est-ce que Dieu? Est-ce que vraiment la promesse de Dieu est vraie? Et cette pensée les mine et ils s'entassent et s'assoient dans une incrédulité subtile ou pas subtile. C'est à cause de ce danger que Dieu nous donne ce passage adressé à d'autres chrétiens du premier siècle. C'était des chrétiens éprouvés. Parce que au premier siècle, être hébreu, c'est dans l'épître aux Hébreux, être converti à Jésus et être hébreu, c'était à un moment donné très dangereux. Nous lisons que certains ont été dérobés de leurs affaires, ont souffert de très graves persécutions. Pensez à un converti dans un monde musulman et vous allez comprendre tout de suite. Quelqu'un converti à Christ dans le monde musulman. C'est ça. Et ils étaient tentés de quitter la foi chrétienne, de quitter Christ et revenir en arrière vers le judaïsme. Parce que les juifs n'étaient pas persécutés, mais les chrétiens l'étaient. Ah, les épreuves. Je voudrais vous parler de la voix de Dieu avec nous, la voix que Dieu prend avec nous dans la vie chrétienne, et la foi des hommes. Mais nous allons être amenés à parler beaucoup d'épreuves. Et il faut que je fasse une mise en garde. Il y a des épreuves et des épreuves. Il y a des épreuves que vous attirez sur vous-même tout simplement par vos folies. Si quelqu'un commet un crime et il se retrouve en prison avec des ennuis de justice, n'allez pas dire que Dieu est en train de vous éprouver, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose que le chrétien n'est pas obligé de vivre. Vous le vivez simplement parce que vous avez fait ce crime. Mais il y a des épreuves que vous serez obligé de traverser parce que vous êtes chrétien. Et c'est au moment, au sein de ces épreuves, que votre foi va aller dans un des deux sens. Être de plus en plus déçu avec Dieu, ou s'affirmer dans une confiance et dans une exultation de plus en plus grande en Jésus-Christ. Ok, nous commençons avec le premier point. J'ai 6 points, mais je vais aller rapidement et nous n'allons pas regarder tout le passage, mais il y a une ou deux phrases qui sont clés pour comprendre une leçon. Une leçon, j'ai intitulé ce message comment ? Qui est mis à l'épreuve ici ? Ou, deuxième possibilité de titre, le grave danger pour nous d'ignorer les voies de Dieu. Premier point. Dieu t'a adressé, si tu es chrétien, un appel glorieux à entrer dans son repos céleste et éternel. Nous lisons au début de ce passage, regardez le verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste. Alors, ça, c'est une phrase immense. Ça glisse sur mes lèvres, vous l'avez entendu sans rien penser. Mais Dieu est en train de dire que par Jésus-Christ, Dieu appelle les hommes et les femmes dans ce monde à entrer dans un monde céleste et éternel et parfait, un salut glorieux qui ne finira jamais. Ce bas monde, c'est rien, chers amis, c'est rien. Dieu vous appelle à quelque chose de céleste, et éternel et glorieux. Nous lisons donc que nous avons cette vocation céleste, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Plus tard dans le passage, dans le verset chapitre 4 et verset 1, vous allez voir juste en bas, dernier paragraphe, « Craignons donc, tandis que la promesse La promesse d'entrer dans son repos subsiste. C'est ça la vocation céleste. C'est une promesse où Dieu vient vous dire, je vous offre, je vous promets que vous allez entrer dans mon repos à moi-même. Vous allez rentrer dans cet état de félicité éternelle et glorieuse et divine que je joue, dont je jouais moi-même. Et c'est Jésus-Christ qui, en tant qu'homme, s'est emparé de ce repos, de ce bijou, et en vivant une vie parfaite, en mourant sur la croix, il est le premier homme à pouvoir arriver à cela, et il peut nous faire participer avec lui. Regardez bien le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient, ça veut dire que vous allez arriver parce que Christ l'a gagné et il est prêt à vous partager avec vous ce qui est à lui. Ce repos céleste, c'est le sien en raison de son œuvre magnifique, mais il partage, il nous rend participants. Ok, deuxième point. Ça va vite, hein? Ok, deuxième point. Pour y arriver à ce repos céleste, à cette vocation céleste future, il faut répondre à Jésus et à son offre glorieuse par la foi en lui. Par la foi, en lui faisant confiance désormais. Nous voyons ça dans plusieurs versets. Si vous regardez le verset 12 qui est au milieu de la feuille, en bleu, en caractère bleu, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Si nous allons un peu plus loin, dans le dernier paragraphe encore, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, ou mieux traduit, ne pense être tombé à court de la promesse, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ok, ce repos est là, il y a des gens qui se dirigent en ce moment même vers un repos glorieux, et ils se dirigent, ils vont y aller parce qu'ils croient à Jésus-Christ, ce que Christ a gagné, et ce que Christ a offert gratuitement, comme un don de salut. Ça, c'était le deuxième point. Il y a une vocation céleste. Il faut y arriver par la foi en Jésus. Troisième point. Croire en Jésus et en sa promesse de salut, ce n'est pas un acte ponctuel et achevé dans le temps passé, mais une attitude de cœur constante et un acte constamment renouvelé. Nous voyons cela dans le texte, et puis je vais vous l'expliquer pourquoi j'insiste là-dessus. Nous voyons dans le verset 13, qui est au milieu de votre feuille, à peu près au milieu, verset 13, « Mais exhortez-vous chaque jour aussi long qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, si... » Ah, c'est là. Si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Vous voyez? Si votre foi première, au moment de votre conversion, est une foi qui persévère, qui endure, qui continue, qui se renouvelle, qui se garde, alors vous êtes un vrai chrétien et vous allez y arriver. D'accord? Mais chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, et aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, je l'ai dit, c'est un jour où votre foi en Christ et sa promesse glorieuse doit se renouveler et s'affirmer. Et attention, ce n'est pas simplement une foi « oui, 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 je crois ». Regardez le verset 6. « Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si... » Nous retenons fermement jusqu'à la fin, quoi? Notre petite foi qui dit oui, d'accord, c'est vrai, non? Si nous retenons fermement jusqu'à la fin, l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. La traduction est horrible. En fait, ce verset dit, si nous retenons fermement l'assurance et... Comment dire ça? notre fierté, notre vantardise dans cette espérance exultante. D'accord ? Celui qui continue dans la foi, c'est celui qui continue à exulter, à être émerveillé d'une vocation si grande. C'est incroyable. Mais celui qui dit « Oui, oui, j'ai le salut », il est déjà en train de perdre pied, mais vraiment gravement. J'ai le salut. Ce que Christ a fait, cette vie éternelle qui nous est décrite dans le livre d'Apocalypse, c'est une chose exultante. Et cette foi joyeuse est vraiment émerveillée qu'il faut garder jusqu'à la fin. Ok? Ah, peut-être vous vous dites, ah là, vous m'avez eu, pasteur, là, je suis pris. Ok, d'accord, peut-être cette parole est pour moi aujourd'hui. Ah oui, c'est pour moi en tout cas. Ok, bon, nous allons juste dire que cette foi doit donc être une foi qui continue, qui se renouvelle, qui chaque jour se répète. Je me souviens quand j'ai appris à faire de l'escalade il y a des années avec un ami à Grenoble. On est allé dans une salle d'escalade et la première fois que j'ai grimpé, j'étais attaché, mon baudrier, la corde qui descendait jusqu'à lui, il avait la corde, il m'assurait, n'est-ce pas? Je suis arrivé en haut jusqu'au 3 et il m'a dit « lâche, lâche ». Pousse-toi loin du mur et lâche, c'est moi qui te fais descendre. Oh mince. Et si ça ne marche pas ton petit truc là, qu'est-ce que tu l'appelles? Ton gris-gris? J'avais jamais fait. Si, je l'avais mal attaché. Je vous avoue que je n'ai pas obéi au commandement tout de suite. Et puis il a dû répéter plusieurs fois, mais lâche, lâche. Alors, j'ai lâché les pieds, mais j'avais les mains sur la corde. Il a dit « Lâche! Lâche! Lâche tout !» Mais là, je vais être dans le vide! Et enfin, j'ai lâché. Je lui ai fait confiance. C'était un acte ponctuel, un acte d'un moment, et il m'a laissé descendre gentiment et j'étais en bas. Mais la foi chrétienne n'est pas comme ça. Ce n'est pas un acte ponctuel, une bonne fois et c'est fini parce que soit tu vis, soit tu meurs là, après cette seconde de foi. Non, la foi chrétienne, c'est un peu plus comme ceci. Voilà une personne qui a eu le malheur de se retrouver sur une falaise, en escalade, mais qui ne peut plus descendre. La nuit est en train de tomber. Les pompiers sont arrivés, ils arrivent à faire passer une corde assez longue. Et maintenant, il faut que cette personne soit dirigée à travers des parties de la falaise où il peut être assuré, lâcher, descendre, d'autres parties où il doit se faufiler contre la falaise. Il ne peut rien voir. Et chaque fois, il doit écouter le pompier. Maintenant, pousse-toi à droite. Maintenant, lâche, lâche, lâche. Confie-toi à moi. Ok, c'est bien, tu arrives là. Maintenant, repose un moment. Maintenant, va à gauche un peu. Tu ne peux pas aller tout droit. Alors maintenant, lâche-la. Là, maintenant, vite, vite. Et il doit renouveler des actes de confiance, des actes de confiance, des actes de confiance, jusqu'à ce qu'il soit arrivé. La foi chrétienne est un peu plus comme ça. On se confie en Christ, on croit dans sa promesse, on croit dans son salut, on croit dans sa bonté, dans ce qu'il veut, dans son amour, à travers chaque épreuve, à travers chaque problème, jusqu'à ce qu'on soit arrivé, on voit que tout était vrai. Tout était vrai. Donc ça, c'est le troisième point. Nous avons fini la moitié. Quatrième point. La voie par laquelle Dieu t'amène au repos céleste est une voie qui va éprouver souvent ta foi en Jésus. La voie de Dieu avec les chrétiens, avec toi, c'est une voie d'épreuves. Pas que d'épreuves, hein, attention, hein. Une voie pleine de bénédictions, de joie, mais une voie semée d'épreuves. Je vais vous montrer pourquoi, parce que ça relève de la bonté de Dieu. Ok. Nous lisons au verset 7 du passage, donc ça c'est la partie qui est ici, c'est une citation du psaume 95. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères m'ont provoqué en me mettant à l'épreuve et ont vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération. J'ai dit, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voix. Je vous ai parlé de la voix de Dieu avec vous, c'est une voix d'épreuve. Ils n'ont pas connu mes voix. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, ce psaume raconte des expériences de la génération qui sort avec Moïse d'Égypte. Et vous vous rappelez la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, et puis ils doivent arriver à Canaan, qui est un peu une image de notre repos céleste. Ils doivent arriver. Mais en cours de route, il y a beaucoup d'épreuves. Parfois, ils ont faim. Parfois, il n'y a pas d'eau à boire. Parfois, il y a des ennemis. Et quand ils arrivent au bord de Canaan, il y a des hommes géants. Dieu nous a promis de donner ce pays-là. Et il y a un peu de sarcasme et d'ironie dans ce psaume que vous venez de lire avec moi, parce que le passage nous dit « Lors de la révolte, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert où vos pères m'ont provoqué en me mettant à l'épreuve. » Cela se réfère à un événement particulier, à un endroit qui s'appelait Rephim. En tout cas, ils l'ont renommé Massa et Meriba, on va l'appeler comme ça. Et donc, ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau pendant plusieurs jours. Okay? Et bien sûr, le peuple se questionne. Dieu nous a sauvés d'Égypte. Il nous promet ce repos en Canaan. Et puis, qu'est-ce qui nous arrive là? Si Dieu nous aimait vraiment, pourquoi est-ce qu'il nous amène ici pour nous faire mourir de soif? La foi est éprouvée. Est-ce que la promesse de Dieu est vraie? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que je suis tellement mal si Dieu m'aime et si Dieu m'amène à son repos? Donc, le passage nous dit que c'est le jour des épreuves, parce que les hommes ont mis Dieu à l'épreuve. Mais ailleurs dans la Bible, dans le psaume 81, nous apprenons que ce n'est pas l'homme qui éprouvait Dieu à Mariba, mais Dieu qui éprouvait les hommes. Je vous lis le psaume 81. « Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mariba. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le peuple est arrivé, c'est Dieu qui va éprouver le peuple pour voir, est-ce que vous me faites vraiment confiance? Est-ce que vous croyez dans ma promesse, même quand il semble, quand il vous semble dans votre petite tête, à cause des circonstances, que ma promesse n'est pas vraie, que je ne suis pas bon? Est-ce que vous croyez à vous-même et votre cœur, vos raisonnements? Ou est-ce que vous croyez à ce que je vous ai dit? Donc, Dieu les amène dans un endroit où il n'y a pas d'eau pour voir, pour éprouver. Et pour qu'eux-mêmes, ils puissent voir l'état de leur cœur. Et la Bible dit que ce n'était pas un incident isolé dans leur traversée du désert. Parce que dans Deutéronome, nous lisons ceci, Deutéronome 8, 2, « Souviens-toi, Dieu parle au peuple. » Maintenant, c'est la fin de ces 40 ans. Ils sont arrivés Et Dieu relate et résume un peu toutes ces années. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non mes commandements. Je vous soumets, chers amis, que la vie chrétienne pour nous est comme ça aussi. Écoutez ceci, Nouveau Testament. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, Paul et Barnabas, oui, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, continuer dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même chose donc pour nous. Tour de France. Depuis le commencement de la première étape jusqu'à la ligne d'arrivée de la dernière étape, que d'épreuves. On les appelle les épreuves, n'est-ce pas? Que de collines, que de concurrents à gérer, que de soif à gérer, que de mal aux muscles, que de tentations à renoncer, que de soleil. La vie chrétienne, depuis le commencement jusqu'à la fin, a aussi ses épreuves. Et la question pendant tout ce temps, c'est ceci pour toi. Alors maintenant, est-ce que tu vas croire en Jésus-Christ? Et est-ce que tu vas croire qu'il réserve pour toi, dans un amour incroyable, une vocation céleste et glorieuse? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est en train de t'amener là? Fidèlement et exactement comme il faut. C'est ça la question. Maintenant, je veux poser deux questions et nous allons arriver au nœud du message de ce matin, d'accord? La première question, c'est pourquoi est-ce que Dieu éprouve la foi des chrétiens et ta foi? En vous exposant à des épreuves. Deux raisons. Puisque Dieu nous aime, il doit exposer une fausse foi là où elle existe. Il n'y a rien de pire pour toi que d'avoir une foi qui n'est pas une foi qui sauve, parce que la Bible parle de foi qui ne sauve pas, une foi qui n'est pas une foi salvatrice. Il n'y a rien de pire dans le monde que d'avoir une fausse foi et de ne pas le savoir. Donc, heureusement, dans sa grande bonté, Dieu trie et montre afin que les gens puissent venir à une foi véritable. Deuxième raison, si vous avez une foi véritable, Dieu est en train, par ses épreuves, de vous faire le plus grand bien possible, de purifier, de rendre pure et bonne et solide et noble et glorifiant à Dieu cette confiance que tu as en lui. Vous avez vu que dans tout le passage, il est question de cœur, de cœur, de cœur. Je vous lis juste quelques phrases. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 10. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il n'y a rien de plus important dans ta vie maintenant ou demain que l'état de votre cœur en ce qui concerne la confiance ou la méfiance envers votre Dieu. Dites-moi. Qu'est-ce qui détermine la nature de ta relation avec n'importe quelle personne humaine? Quel est l'élément le plus important qui détermine? Eh bien, normalement, c'est la confiance. Quand tu as la confiance en quelqu'un, tu te rapproches de cette personne, tu t'ouvres à elle, tu l'écoutes, tu te laisses aider par elle. Si tu te méfies de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Tu mets de la distance, tu t'ouvres pas, tu ne te laisses pas aider, et donc il n'y a pas de possibilité de relation. La confiance est la base de toute relation. Et la confiance en Dieu est la base de toute ta vie chrétienne. Quelle est ton attitude envers Dieu? Une subtile méfiance, peu de frustration, peu de lassitude. Est-ce que vraiment Dieu? Ou bien, est-ce que c'est une confiance entière? Il n'y a aucun péché pire que l'incrédulité, parce que l'incrédulité est une attaque frontale à Dieu lui-même. Parce que l'incrédulité dit, tu n'es pas fiable, tu n'es pas bon, tu n'es pas aimant. On ne peut rien faire de pire. C'est le péché maître. C'est le blasphème suprême. Maintenant, toi, par rapport à ton salut, est-ce que tu vis dans la confiance en Jésus-Christ par rapport à ton mariage, tes enfants, par rapport à ta provision matérielle, ton travail, tes vacances, ta santé, ton futur, ta sécurité, tes problèmes, les péchés de ton époux, ton épouse, cet enfant égaré? Est-ce que ton attitude à travers toutes ces épreuves est une attitude de confiance ou méfiance? Maintenant, je pose la deuxième question. La première, c'était pourquoi est-ce que Dieu nous expose à des épreuves? Deuxième question, comment est-ce que Dieu éprouve ta foi? Très simplement, Dieu te met dans une situation où il paraît qu'il n'est pas fidèle. C'est ça une épreuve. C'est des circonstances qui, à les regarder, semblent indiquer que Dieu n'est pas avec moi et pour moi. Vous avez une situation comme ça en ce moment? Regardez, bien. Dans cette affaire de Mariba, nous lisons ceci en Exode 17. Écoutez vraiment bien ce verset. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mariba, donc ça veut dire éprouver et disputer, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient mis à l'épreuve l'Éternel en disant. Disant quoi? L'Éternel est-il au milieu de nous ou non? C'est ça l'épreuve. Tu es dans une situation où tu es tenté de dire, est-ce que Dieu était là à ce moment-là? Est-ce qu'il est là pour moi en ce moment? Ça va? En ce moment, il est là. Chers amis, la question n'est jamais, est-ce que Dieu est fidèle à sa promesse? La question est toujours ton cœur. Est-ce qu'il va faire confiance? J'ai entendu la semaine passée au sujet de la famille, de la meilleure amie de ma fille. Jeune couple, ils se sont réveillés. Ils ont trouvé leur fille de 3 ans. Mort dans le lit. Voilà ce chrétien qui a une maladie qui traîne des années, qui est dévastatrice. Voilà une chrétienne qui est en chômage depuis si longtemps et qui n'arrive pas à trouver un travail. Voilà une chrétienne qui a passé ses 30 ans, qui désire tellement être mariée, mais qui ne trouve pas de mari chrétien dans un pays où il y a peu d'âmes de Dieu. Voilà quelqu'un qui a été rejeté par ses amis parce qu'il est devenu chrétien. Voilà un chrétien qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, lutte avec ce même péché. Il a crié à Dieu combien de fois? Est-ce que Dieu est vraiment là? Voilà quelqu'un qui sert le Seigneur, qui essaie de répandre l'évangile, comme nous dans cette petite implantation, ou vous. Et à travers ses efforts, ses prières, cette angoisse, ce désir au Seigneur, montre aux gens la vérité de l'évangile. Et pour le moment, rien. Est-ce que Dieu est avec nous ou non? C'est ça l'épreuve. Nous arrivons donc au cinquième point. Quand ta foi est éprouvée, tu vas répondre à Dieu dans une de deux façons. Tu vas te tourner vers lui dans la confiance ou tu vas te détourner de lui dans la méfiance. Et je veux vous montrer comment ça se passe. Si ton cœur est incrédule, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver de bonnes raisons dans ton épreuve, la perte de cet enfant, de ce travail, de ta santé, le manque de succès dans le ministère ou dans d'autres domaines. Tu vas trouver de bonnes raisons pour conclure, pas encore conclure, pour mettre Dieu en question. Pour mettre Dieu en question. D'accord? Nous arrivons, il n'y a pas d'eau. Un premier jour, un deuxième jour, on est en train de mourir de soif et on est petit à petit en train d'arriver à une conclusion à cause de l'état du cœur. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Ça n'a pas été prouvé, hein? Que ça reste en suspens, hein? Là, il faut que Dieu montre, il faut qu'il fasse ceci ou cela, et puis on sera. Mais pour le moment, on ne va pas prendre une conclusion que Dieu est vraiment bon et fidèle. Ah, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Au lieu que vous soyez mis à l'épreuve par Dieu, dans votre foi, c'est vous qui allez vous mettre en position de Dieu, et vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Voilà le basculement de l'incrédulité. Qui est en question maintenant? Vous et votre confiance? Non. De votre point de vue, c'est Dieu qui est en question, qui est en cause, qui doit réussir l'épreuve. C'est vous qui éprouvez Dieu et qui le mettez en procès. Et maintenant, c'est la dégringolade. Et nous le faisons tous, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me dire que vous n'avez jamais eu cette attitude? Ou maintenant, vous dites que la vraie question, c'est est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu tient ses promesses? Est-ce que ce n'est pas constamment notre tentation, n'est-ce pas? De questionner Dieu. Alors que la personne au cœur croyant, il fait exactement le contraire. Il comprend les voies de Dieu. Regardez bien le passage. Il dit ici, au beau milieu de votre passage, au verset 7, « Au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, vos pères m'ont provoqué en me mettant à l'épreuve, ayant vu mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération et j'ai dit, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. » C'est ça le problème. La personne incrédule, il est éprouvé, Dieu le met à l'épreuve, et qu'est-ce qu'il conclut? Il ne comprend pas que cette voie de Dieu est une voie pour l'éprouver pour son bien. Il pense que c'est une manière pour Dieu de montrer qu'il est infidèle. Il ne comprend pas le manque d'eau à Mariba. Il ne comprend pas les voies de Dieu pour éprouver l'âme. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces combien d'années pour toi en tant que chrétien, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pas son cœur. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la main que tu manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu ton père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement s'est point usé sur toi, ton pied n'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est-à-dire, avec le cœur croyant, tu regardes toutes ces épreuves, cette perte de travail, cette perte d'enfant, cette difficulté dans la vie chrétienne, ce manque de succès dans le service chrétien, et tu vois, Dieu est en train de me prendre comme un bon père. Il est en train de me châtier, de me purifier, de me purger, de me faire du bien, d'enlever toute cette mauvaise habitude de croire qu'en moi-même. Et ce que je vois, et de ne pas faire confiance à celui qui s'est pendu sur le bois du calvaire. Je connais une personne qui m'a dit, plus ou moins, je ne peux faire confiance qu'à moi. Cette personne ne voulait jamais aller dans un avion. Elle m'a dit, si je pouvais être dans le cockpit, j'irais. Mais je ne peux pas avoir de la confiance dans un pilote, parce que ce n'est pas moi. N'est-ce pas? Et nous sommes comme ça avec Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu me remettait les choses entre mes mains, s'il me faisait voir ce qu'il est en train de faire, alors je lui ferais confiance. Non, ce n'est pas à lui que tu ferais confiance en ce moment, c'est à toi. C'est à toi. Et c'est ça le grand problème. Un cœur méchant qui ne se confie qu'en lui-même. Mais la foi, selon ce passage, c'est une foi qui entend tous les jours la voix du Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, qu'est-ce que cette voix dit? La bonne nouvelle, nous avons entendu la bonne nouvelle d'un repos céleste. Chaque jour, Dieu nous parle par l'Évangile. Il lui dit, j'ai tellement aimé le monde, je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je suis le pain de vie qui descend du ciel, afin que quiconque croit en moi n'aura pas faim. Et j'ai préparé un lieu pour vous dans la maison de mon Père. Je reviendrai vous prendre. Et c'est cette voix que j'entends chaque jour que je peux appeler aujourd'hui. Je dois l'entendre de nouveau parce que j'entends une autre voix dans mes épreuves. C'est la voix de mon petit cœur mauvais et incrédule qui me dit, qui regarde les situations de ma vie difficiles, dures, qui traînent et qui dit, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu? Non, il n'y a pas d'est-ce que Dieu. Dieu n'est pas à l'épreuve. C'est moi. C'est moi qui suis à l'épreuve. J'ai un appel noble et grand. Et cet appel, c'est est-ce que tu vas croire dans ton Dieu? Est-ce que tu vas croire dans un Sauveur qui meurt sur une croix pour toi? C'est ça la question de tout, mais aujourd'hui, est-ce que la voix de l'Évangile va être les lunettes à travers, je regarde mes épreuves pour voir que Dieu me fait du bien en m'éprouvant? Ou est-ce que mes épreuves vont être les lunettes à travers lesquelles je vois l'Évangile et je dis, non, l'Évangile ne peut pas être vrai, parce que voilà ce qui m'arrive. C'est cette charnière-là qui est le danger, qui est le piège, qui l'appelle, qui est l'endroit où nous allons, chers amis, par la grâce de notre grand sacrificateur, remporter. Parce que le passage nous dit, et je finis comme ça, que Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur, que lui qui a été fidèle qui a fait confiance jusqu'au bout, il intercède pour nous au ciel. Et nous pouvons nous approcher de lui pour trouver grâce et miséricorde pour secourir notre incrédulité en temps de besoin. Moïse n'a pas pu amener son peuple dans le pays de Canaan. Il n'a pas pu. La génération qui était la sienne est morte dans le désert. Jésus mène parce qu'il est un plus grand souverain sacrificateur. Celui qui est mort pour vous sauver peut vous donner une foi. Peut vous donner une foi qui dure. Mais considérez, chers amis, Jésus-Christ. Considérez-le, ce qu'il a fait sur la croix, ce qu'il est, ce qu'il offre. Accrochez-vous à lui seul et rien ne peut faire sombrer dans l'incrédulité et dans l'apostasie. Le Seigneur nous garde et nous bénissons lui. Nous allons finir notre culte par un chant de réponse dans le carnet, c'est le numéro 13. En toi, je me confie. En toi, je me confie. Après ce chant, nous aurons juste un petit moment de prière et la bénédiction finale. Numéro 13. En toi, je me confie.
Toi, je me confie, ô souverain des cieux, mettant ma vie, mes craintes et mes voeux, que ta bonté descende sur nous, sur nos enfants, toi dont la voix commande au monde comme au vent. J'ai l'âme angoissée, j'espère en mon sauveur. Il sonde les pensées, il voit le fond des cœurs. Il est mon espérance, au bon, au mauvais jour. Au fort de la souffrance, lui seul est mon recours. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humbler fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi. Je connaîtrai sans cesse le bonheur d'être à toi.
Je vous invite à prier. Sentez-vous libres.